Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de commencer le cours, je voudrais rappeler que j'ai encore deux places pour la retraite du 18 au 23 mars. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir à cette retraite de 5 jours, l'exercice de Saint-Ignace, hein, qui me contacte au plus vite sur mon téléphone portable, c'est plus simple, ou sur 06 32 01 65 16 ou directement sur mon adresse mail jlf.lafitte@gmail.com. Voilà. Nous sommes toujours dans le grand traité sur le Verbe incarné, la Tertia Pars. Nous sommes à la question 10 sur la science bienheureuse du Christ. Et tout ce qui va être maintenant expliqué par saint Thomas dépend justement du mystère de l'incarnation. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et à la fois vrai homme. Donc l'union entre les deux natures dans la personne du Christ ne détruit ni l'une ni l'autre. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais ce n'est pas une espèce, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, une espèce de mélange des deux natures. Donc il a une science divine, une science humaine, il a une intelligence divine, une intelligence humaine, il a une volonté divine, une volonté humaine. Et comme il est vraiment homme, eh bien, il a une union dans sa nature humaine entre le corps et l'âme. Alors nous en sommes à la question 10 de la Tertia Pars, la science bienheureuse de l'âme du Christ. Et au début de cette question, qui comprend 4 articles, saint Thomas se pose la question donc de savoir si l'âme du Christ a eu la compréhension du Verbe ou de l'essence divine. Eh bien, la réponse est très simple. C'est une réponse qui vient de la philosophie, une réponse théologique, mais qui a une racine philosophique. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, est créé. Je dis bien en tant qu'homme. Il a une nature humaine qui est créée. Qui dit nature humaine créée, donc son âme et son corps sont créés de toutes pièces. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas toujours existé en tant qu'homme, puisqu'il n'existe en tant qu'homme que depuis le jour de l'incarnation, c'est-à-dire le jour où la très sainte Vierge Marie, à la visite de l'ange Gabriel le 25 mars, a accepté de devenir la mère du Seigneur. Donc ayant une nature humaine créée, notre Seigneur Jésus-Christ a une nature humaine qui par définition même est finie, elle n'est pas infinie. Dieu seul est infini, Dieu seul est éternel, Dieu seul est infini. La nature humaine du Christ étant une véritable nature humaine en tout, identique à la nôtre, sauf bien sûr le péché, notre Seigneur Jésus-Christ a donc une nature qui est limitée, même dans la connaissance qu'elle peut avoir. Voilà ce que répond saint Thomas donc à cette question, de savoir si la nature, l'âme du Christ peut avoir la compréhension parfaite du Verbe ou de l'essence divine. Il va répondre en disant que l'essence divine dépasse infiniment l'âme du Christ, et ne saurait être limitée par elle. L'âme du Christ n'a donc pas la compréhension du Verbe. Pourquoi ? Parce que l'essence divine est infinie, est éternelle, alors que l'âme du Christ est finie. Donc elle n'est pas, elle ne peut pas être totalement l'âme de Christ n'est pas suffisamment, je dirais, avec des termes modernes, n'est pas suffisamment grande pour comprendre l'essence divine. Quelque chose de limité, quelque chose de fini, ne peut pas comprendre quelque chose d'illimité, d'infini. Donc l'essence divine ne peut pas, je veux dire, l'essence divine, oui c'est ça, on peut dire ça comme ça, soit l'essence divine ne peut pas être comprise par le Verbe en tant que, je reprends, l'âme du Christ n'a pas la compréhension du Verbe, parce que l'âme du Christ étant limitée et finie, ne peut pas comprendre quelque chose d'illimité ou de divin. Et le Verbe du Christ, on peut expliquer ça aussi d'autre façon, le Verbe de Dieu étant divin, donc illimité, ne peut être compris par quelque chose de limité. Il le redit juste après, l'union des natures s'est faite en la personne du Christ sans que leur propriété se soit confondue, en sorte que l'incréé est demeuré l'incréé, le créé est resté dans les limites de la créature. La grâce ne détruit pas la nature. La nature de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, encore une fois, est limitée par le fait qu'elle est créée. Il est impossible donc à une créature de comprendre l'essence divine, ainsi que nous l'avons déjà démontré dans la première partie, cite là ici Saint Jean Damascène. Car l'infini ne peut être compris par le fini. Il faut donc admettre que d'aucune manière, l'âme du Christ n'a eu la compréhension de l'essence divine. Alors c'est des choses qui choquent un petit peu quand on n'est pas habitué aux termes philosophiques. Tout vient encore une fois d'une chose essentielle, c'est qu'il y a quelque chose de créé dans le Christ, bien que le Christ soit Dieu. Et c'est le fait que cette chose n'ait pas été comprise, ce point de doctrine très important n'ait pas été compris par certains hérétiques, qui a entraîné des catastrophes sur le plan théologique. C'est comme ça, par exemple, que Arius a conclu que notre Seigneur Jésus-Christ, étant créé dans sa nature humaine, ne pouvait pas être Dieu. Et la réponse, elle est dans le mystère même de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'union de deux natures qui restent indépendantes, si vous voulez, d'une certaine façon. La nature humaine est parfaite, la nature humaine est parfaitement humaine, la nature divine est parfaitement divine, et les deux natures sont unies dans la même personne. Mais l'homme reste homme, et Dieu reste Dieu dans cette nature. Donc l'infini, c'est la conclusion, si vous voulez, de saint Thomas, d'aucune manière l'âme du Christ n'a la compréhension de l'essence divine. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement homme. Donc en tant qu'homme, la grandeur, je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais je n'en vois pas d'autre actuellement, la grandeur de son âme est limitée. Donc en tant qu'homme, notre Seigneur Jésus-Christ a dû apprendre des choses. En tant que Dieu, bien sûr, il savait tout. Et donc, il ne faut pas dire, ce qu'on entend parfois trop souvent, que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, la nature divine a totalement noyé la nature humaine. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, parce qu'il était Dieu, il savait tout. Il savait tout en tant que Dieu, mais pas en tant qu'homme. Et donc, il faut faire attention, parce que je l'ai déjà dit souvent, mais j'insiste là-dessus, parce que c'est des choses qu'on entend trop souvent, des gens qui se choquent en disant, vous n'avez pas le droit de dire, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire, qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ quelque chose de créé, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, donc puisqu'il est Dieu, tout est incréé et infini en lui. Non, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai, mais il est aussi parfaitement homme. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était que Dieu, il ne pourrait pas avoir souffert sa passion. Il ne pourrait pas souffrir sa passion, c'est pas possible, puisque la passion va détruire la nature humaine, va écraser, écrabouiller la nature humaine. Si notre Seigneur Jésus-Christ, si la nature humaine était tellement unie à la nature divine que la nature divine, en quelque sorte, empêchait la nature humaine d'être détruite, de pouvoir souffrir et d'être détruite par la passion, à ce moment-là, la conclusion serait que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment homme. Or, il est vraiment homme et vraiment Dieu. Donc attention à ce qu'on dit sur ce sujet. C'est un mystère. N'oublions pas que l'incarnation, même bien expliquée par saint Thomas d'Aquin, l'incarnation reste un mystère, comme la rédemption, comme la Sainte Trinité, un mystère. C'est quelque chose qui ne peut pas être compris par notre intelligence, qui elle-même, étant totalement finie, ne peut pas comprendre, évidemment, la grandeur de l'intelligence divine. Bon, cependant, l'âme du Christ connaît toutes choses dans le Verbe. dans le Verbe de Dieu. Alors, saint Thomas va terminer cet article en disant, pour répondre à une objection importante, l'objection, attendez que je retrouve le texte, hein, l'objection est une objection saint Augustin. Ce qui convient au Christ, ce qui convient au Fils de Dieu par nature, convient au Fils de l'homme par grâce, dit saint Augustin. Ça, c'est vrai. Donc, il semblerait, objection, que l'âme du Christ a eu par grâce la compréhension du Verbe. Et saint Thomas répond en disant que le Fils de l'homme a la compréhension de l'essence divine, non par son âme, mais par sa nature divine. La grâce étant quelque chose de créé. Ensuite, il va expliquer un peu plus en disant que la lumière incréée de l'intelligence divine surpasse à l'infini toute lumière créée reçue par l'âme du Christ. Donc, bien que la nature humaine soit parfaite dans son genre, bien que la nature divine, évidemment, soit parfaite également, puisque cette nature est infinie et est éternelle, cependant, la nature humaine étant créée et limitée, finie. Donc, elle ne peut pas tout comprendre sous la lumière divine, et donc l'intelligence divine surpasse infiniment la lumière, reprenons la phrase, la lumière incréée de l'intelligence divine surpasse infiniment toute lumière créée reçue par l'âme du Christ. Alors, saint Thomas va se poser ensuite, continue de creuser un peu le sujet en se demandant, l'article 3 de la question 10, si l'âme du Christ connaît une infinité de choses. Il répond positivement, l'âme du Christ connaît une infinité de choses. Mais elle ne peut pas connaître parfaitement l'essence divine. Encore une fois, parce que l'âme du Christ est créée. L'être et le vrai sont convertibles, donc rien n'est connu, sinon qu'il est en acte et non en puissance. Bon, ça c'est de la philosophie, j'ai déjà expliqué ces choses-là, donc je ne reviens pas. Donc l'âme du Christ connaît dans le Verbe de Dieu une infinité de choses. Donc on ne peut pas dire que l'âme du Christ connaît en elle-même, par sa nature humaine, une infinité de choses, mais elle va connaître une infinité de choses en tant qu'elle est unie au Verbe de Dieu. On peut donner un exemple avec l'intelligence et la volonté du Christ. L'intelligence du Christ étant en tant qu'humaine est limitée. L'intelligence du Christ en tant que Dieu est illimitée. Donc l'intelligence humaine du Christ connaît une infinité de choses en tant qu'elle est unie à l'intelligence divine, mais pas par elle-même. Donc, on avance dans cette question numéro 4. Donc, le saint Thomas d'Aquin va expliquer davantage les choses. Il est évident, donc, c'est l'article 4 de la question 10, que l'âme du Christ se pose la question de savoir si l'âme du Christ voit le Verbe ou l'essence divine plus clairement qu'aucune autre créature. Il répond en disant que l'âme du Christ voit Dieu plus parfaitement que ne le voit aucune créature. Pourquoi ? Parce qu'il y a une union entre l'âme du Christ et la divinité. Union qui n'existe pas en nous. Nous n'avons pas une union entre notre âme et la divinité. Certes, si nous sommes en état de grâce, nous avons en nous l'habitation de la Sainte Trinité, mais l'habitation de la Sainte Trinité en tant que grâce sanctifiante, est quelque chose de créé. Donc l'âme du Christ voit Dieu plus parfaitement que ne voit aucune créature, et ensuite saint Thomas va expliquer que la vision de l'essence divine convient à tous les bienheureux dans la mesure où ils participent à la lumière qui leur est communiquée par le Verbe de Dieu. L'âme du Christ, donc, unie au Verbe dans sa personne, est plus proche de lui qu'aucune autre créature, à cause de l'incarnation. Elle reçoit donc plus parfaitement qu'une autre la communication de la lumière en laquelle Dieu est vu par le Verbe. Elle voit donc plus parfaitement que les autres créatures la vérité première qui est l'essence de Dieu. Donc n'oublions jamais que dans le mystère de l'incarnation, la nature humaine est unie à la nature divine. Donc l'âme du Christ est remplie d'une lumière plus abondante, elle connaît plus parfaitement l'essence divine que les autres que les hommes ici-bas sur la terre, et même que les autres bienheureux, bien que tous voient l'essence divine par elle-même. Et au ciel, nous avons d'une certaine façon la vision béatifique, puisque les bienheureux au ciel voient l'essence divine, mais ils ne verront, ils ne pourront pas comprendre l'essence divine par elle-même aussi parfaitement que Dieu se comprend lui-même. Pourquoi ? Parce que Dieu seul est éternel, Dieu seul est infini, Dieu seul est illimité, et que les bienheureux au ciel sont limités dans leur compréhension de l'essence divine. Expliquez ça comme ça. Ensuite, Saint Thomas d'Aquin va passer à la science infuse de l'âme du Christ, en se posant d'abord la question de savoir si, ça c'est la question numéro 11, est-ce que la science, par sa science infuse, le Christ connaît toutes choses. Voilà ce qu'il répond. Il semble donc que le Christ, par la science infuse que le Saint-Esprit lui communique, a connu toutes choses. Donc, en tant que le Christ, que l'humanité du Christ, donc l'humanité, en tant que l'humanité du Christ, en tant que l'intelligence humaine du Christ, sont unies à la divinité, dans ce sens-là, le Christ a connu toutes choses. Mais le Christ n'a pas connu toutes choses uniquement en tant qu'homme. Donc, Saint Thomas a une phrase magnifique, voilà ce qu'il dit. Il dit « À la sagesse revient la connaissance de toutes les choses divines. À l'intelligence, la connaissance de toutes les réalités matérielles. À la science, la connaissance de toutes les conclusions. Et au conseil, la connaissance de tout ce qui concerne l'action. » Notre Seigneur Jésus-Christ a donc aussi, bien sûr, les dons du Saint-Esprit. Il convenait donc, pour que l'âme du Christ soit en tout point parfaite, que toute sa potentialité soit amenée à l'acte. Ensuite, il va expliquer. Donc, c'est une explication un petit peu philosophique. Encore une fois, je limite le cours. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'insiste pour ceux qui se posent parfois des questions sur ce sujet. Donc, je limite le cours pour ne pas transformer le cours, si vous voulez, en un cours de haute philosophie, un cours de haute théologie. D'abord parce que je n'ai sans doute pas les compétences pour ça, et ensuite parce que ce n'est pas le but du cours. C'est quand même un cours qui est fait pour des laïcs, pour que les laïcs puissent découvrir saint Thomas d'Aquin, et surtout aimer saint Thomas d'Aquin. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. L'âme du Christ connaît encore tout ce que les hommes connaissent par révélation divine, parce que cela relève du don de sagesse, du don de prophétie et de tout autre don du Saint-Esprit. De tout ce que Dieu a pu révéler par révélation divine dans son Église, tout ça est connu de Dieu en tant qu'homme. Alors nous approfondissons toujours avec saint Thomas. Donc je passe sur les parties trop philosophique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but du cours. Donc, je passe sur certains, encore une fois, sur certains articles pour ne pas alourdir le cours. Ça n'empêche pas que vous pouvez, par vous-même, aller directement sur le texte de saint Thomas, pour ceux qui ont la somme, et approfondir un petit peu ces notions-là. Alors, il y a là des parties un peu qu'on peut couvrir rapidement. Donc, saint Thomas explique, donne des détails quand même, en disant que l'opération propre de l'âme rationnelle, donc l'âme de l'homme, c'est d'inférer et de progresser d'un point à l'autre. Il y a donc eu chez le Christ une science discursive ou comparative. Notre Seigneur Jésus-Christ a une véritable intelligence humaine. En tant qu'intelligence humaine, notre Seigneur Jésus-Christ comprend les choses dans son cerveau humain, puisqu'il a un cerveau humain. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, comprend dans son cerveau humain les choses comme tous les hommes les comprennent. C'est-à-dire qu'il va comprendre les choses par abstraction à partir du sensible. À partir des sens, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, avait 5 sens, comme nous tous. Donc, il se pose la question, toujours dans cette même ligne de raisonnement, de savoir si la science infuse du Christ était inférieure à celle des anges. Mais la réponse est claire, c'est uniquement pour avoir souffert la mort que le Christ a été abaissé au-dessous des anges et non en raison de sa science. Donc, en tant qu'homme, notre Seigneur Jésus-Christ est inférieur à la nature angélique. Donc la lumière surnaturelle communiquée à l'âme du Christ est beaucoup plus parfaite que celle qui revient à la nature angélique. C'est-à-dire que la nature surnaturelle, c'est-à-dire la nature, la lumière plus exactement, la lumière humaine du Christ, de connaissance du Christ, en tant qu'elle est unie à la lumière qui vient de l'essence divine, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme il est aussi Dieu, en tant que cette lumière est en quelque sorte encore perfectionnée par la lumière divine, cette lumière à ce moment-là est plus parfaite que celle qui revient à la nature angélique. Bon. Alors j'avance dans les autres articles qui sont quand même relativement un peu trop philosophiques pour le sujet de ce cours. Donc saint Thomas explique que la science infuse du Christ était à l'état d'habitude, d'habitus, et qu'il pouvait en faire usage donc quand il le voulait. Alors je passe sur les articles 6 de la question 11 qui sont encore trop philosophiques pour être le sujet de ce cours. Il précise quand même que la science infuse de l'âme du Christ comprenait plusieurs habitus. Pourquoi ? Parce que la science du Christ est très parfaite et surpasse la science des anges si on la considère du côté de Dieu qui la cause. Mais elle est inférieure à la science angélique en ce qui regarde le mode de réception dans le sujet. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, comprend les choses par abstraction à partir des sensibles, c'est-à-dire que les sensibles vont informer l'intelligence humaine du Christ de ce qui se passe à l'extérieur. Donc Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, comprend les choses par abstraction, alors que l'ange, ayant une intelligence divine, qui ne passe pas par les sens, puisque l'ange est un pur esprit, il n'a pas de corps, donc il n'a pas de sens, pour voir, pour toucher, pour goûter, etc. Donc l'ange, lui, comprend les choses par intuition. La connaissance par intuition est très supérieure à la connaissance par abstraction. Alors, question 12, donc on continue d'avancer pour essayer de décortiquer un petit peu autant que faire se peut le mystère de l'incarnation. Donc saint Thomas d'Aquin, la question 12 de la tertia part, se pose la question de savoir s'il y avait une science acquise. Une science expérimentale de l'âme du Christ, c'est-à-dire est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, a appris des choses qu'il ne savait pas ? Et donc, voilà ce que répond notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, saint Thomas d'Aquin, donc par la science acquise, cette science a obtenu tout ce qui peut être connu par l'usage de l'intelligence humaine en tant qui comprenait que notre Seigneur Jésus-Christ comprenait les choses comme homme par abstraction. D'accord ? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ était donc capable en tant qu'homme de connaître les effets par leurs causes, les causes par leurs effets, le semblable par le semblable, le contraire par le contraire. Donc, par sa science, qu'on appelle une science expérimentale, ou on peut appeler ça une science expérimentale, ou encore une science acquise, comprendre que dans les mots de saint Thomas, la science acquise ou la science expérimentale, c'est la même chose dans le Christ. Pourquoi ? Parce que la science expérimentale est acquise petit à petit par la connaissance qu'il avait des choses, par son âme en tant qu'âme humaine. Bon, donc, par cette science acquise ou expérimentale, donc l'âme du Christ n'a pas connu absolument tout. Pourquoi ? Parce que l'âme du Christ est limitée, puisqu'elle est créée, mais seulement ce qui est connaissable à l'homme, à cause justement de cette lumière de l'intelligence. Cette science ne lui a donc pas fait connaître les substances séparées, ni les singuliers passés et futurs, objets de sa science infuse. Donc il faut distinguer, comme le fait saint Thomas d'Aquin, en notre Seigneur Jésus-Christ, une science acquise et une science infuse. Mais sans détruire en cela et l'humanité et la divinité. C'est toujours la difficulté quand on parle de l'incarnation. C'est pour ça qu'il est très difficile de parler de l'incarnation, de l'union entre l'unité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sans parfois dire des choses qui sont non, pas forcément fausses, mais qui sont pas très compréhensibles. Pourquoi ? Parce qu'on touche au mystère. On disait un petit peu en riant au séminaire qu'il était impossible de donner, que quand on donne un sermon sur la Sainte Trinité, on avait toujours au moins deux hérésies dans le sermon, parce qu'il est très difficile avec des mots humains d'expliquer les choses qui sont essentiellement divines. Donc saint Thomas creuse encore le problème en se posant la question de savoir si, question 12, article 2, savoir si le Christ a progressé dans cette science, acquise cette science expérimentale. Et donc il va citer saint Luc, chapitre 2, verset 52, juste après que notre Seigneur Jésus-Christ soit resté au temple de Jérusalem pour enseigner les docteurs, sans que ses parents l'aient su. Donc Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont cherché pendant 3 jours l'enfant Jésus, paniqué d'avoir perdu l'enfant Jésus. Et après l'avoir retrouvé, il y a une phrase dans Saint Luc qui dit « Jésus croissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». Donc en sagesse, en âge, en grâce, notre Seigneur Jésus-Christ a progressé dans la science expérimentale ou acquise. Il y a un double progrès donc de la science, l'un dans son essence, parce que l'habitus de science s'accroît, l'autre dans ses effets, qui consiste, avec un habitus de science de même intensité, à démontrer aux autres d'abord des vérités moins importantes, puis des choses de plus en plus difficiles et subtiles. On fait la même chose avec les enfants. Aux enfants, on n'explique pas tout dès le début. On leur apprend d'abord à utiliser correctement leur intelligence, et plus leur intelligence progresse, plus on leur explique des choses compliqué. Donc, le Christ a progressé en sagesse et en grâce, tout aussi bien qu'en âge, car à mesure qu'il croissait en âge, il faisait des œuvres plus grandes qui manifestaient une science et une grâce plus élevées. Donc, au début, si vous voulez, quand on a un bébé devant nous, on le nourrit avec du lait, parce que c'est tout ce qu'il peut digérer. Mais au bout d'un certain temps, son métabolisme va devenir petit à petit le métabolisme d'un adulte, et au bout d'un certain temps, eh bien, l'enfant ne va plus être nourri simplement de lait, mais aussi de nourriture solide, et bien à un moment, le lait maternel va même complètement disparaître. Donc, la science divine en notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas grandir parce qu'elle est déjà infinie par elle-même, mais sa science acquise expérimentale, elle peut grandir. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Là, on est dans l'article, la réponse à la première objection donc de la question 12, article 2. Je vous lis le texte, même s'il est un peu philosophique. La science infusée dans l'âme du Christ, aussi bien que sa science bienheureuse, fut l'effet d'un agent de puissance infinie qui peut tout produire du premier coup. C'est ainsi que le Christ n'a progressé en aucune de ces deux sciences. Dès le début, il les a possédées en perfection en tant que science infuse. Donc Dieu a possédé notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme uni à la divinité, a possédé de façon parfaite la science infuse et la science bienheureuse. Mais la science acquise est produite par l'intellect agent, donc par l'intelligence humaine, qui n'opère pas de façon simultanée. C'est pourquoi, par cette science acquise ou expérimentale, le Christ n'a pas connu toutes les choses dès le principe, mais peu à peu, et après un certain temps, c'est-à-dire à l'âge parfait, et c'est ce que montre manifestement l'évangéliste lorsqu'il dit qu'il progressait en science et en âge. On ne sait pas si notre Seigneur Jésus-Christ est allé à l'école en tant qu'homme. Est-ce que petit enfant était à l'école? On ne sait pas, il n'y a rien dans l'évangile qui nous laisse supposer cela. On ne sait pas si les enfants de l'époque allaient à l'école ou non. Mais il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, de par l'éducation qu'il a reçue de la très sainte Vierge Marie, dans sa nature humaine, dans sa connaissance expérimentale, a progressé. Notre Seigneur Vierge Marie a vraiment appris à notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, en grandissant dans son corps, à acquérir plus de dextérité petit à petit, justement parce que son corps passait d'un corps de bébé à un corps d'enfant, puis à un corps d'adulte. Saint Thomas, article 3 de la question 12, se pose ensuite la question de savoir si le Christ a été instruit par l'homme. Donc voilà la réponse de Saint Thomas. Le Christ a été constitué tête de l'Église et mis en cours tête de tous les hommes, si bien que tous reçoivent de lui non seulement la grâce, mais aussi la doctrine de vérité. Donc, c'est pourquoi il dit lui-même en Saint Jean, « Je suis né et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, il ne convenait pas à la divinité du Christ d'être enseigné par un homme. Donc, dans ce sens-là, il n'était pas bon que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme uni à la divinité, aille à l'école. Bien que il avait à apprendre des choses par science acquise et expérimentale, on a déjà expliqué. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ interroge à 12 ans les apôtres, pas les apôtres, pardon, les docteurs de la loi au temple de Jérusalem, il interrogeait non pour apprendre quelque chose qu'il savait déjà par sa science infuse, mais pour instruire en interrogeant. Donc, n'oublions pas, saint Thomas va répéter, il répète toujours les mêmes choses, pour bien sûr que ça rentre, surtout dans les sujets un petit peu délicats comme le sujet de l'incarnation. Il répète à l'article 3, il répète que Jésus progressait en science acquise, en science expérimentale, j'ai expliqué que c'était la même science, en science acquise ou expérimentale, il progressait en même temps qu'il croissait en âge. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait qui ne convainte à son âge. C'est pourquoi il n'a pas prêté l'oreille au discours de doctrine que dans le temps, il pouvait acquérir les mêmes connaissances par la voie d'expérience. Donc cela explique, si vous voulez, ce qui a été fait par le Christ quand il avait 12 ans. Donc il instruisait les docteurs de la loi parce qu'il leur parlait en tant que Christ qui était à la fois homme mais à la fois Dieu. Donc, en tant qu'homme, il apprenait, en tant que Dieu, il instruisait. Alors, a-t-il été instruit par les anges ? Je demande saint Thomas d'Aquin en l'article 4 de la question 12. La réponse, c'est que le Christ n'a pas reçu sa science des anges. Donc, l'âme du Christ reçut sa science expérimentale, ce qui ne requiert pas la lumière angélique, la lumière de l'intelligence humaine étant suffisante. Quant à la science infuse, l'âme du Christ l'a reçue par une influence supérieure qui venait immédiatement de Dieu et de son essence divine. Donc, je m'excuse, ces parties sont un petit peu compliquées, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, n'hésitez pas, éventuellement, si vous avez téléchargé la conférence, de la réécouter. Parfois, il y a certains passages qu'il faut réécouter plusieurs fois. C'est, on faisait la même chose au séminaire, on avait un cours de doctrine, un cours de théologie, on prenait des notes, et ensuite on relisait nos notes plusieurs fois dans la cellule, en lisant le texte souvent de saint Thomas d'Aquin directement dans son intégrité, pour arriver à comprendre les notes que nous avions prises pendant le cours. Donc, on voit les anges servir notre Seigneur Jésus-Christ et réconforter notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. Par exemple, pendant la Passion, on voit très bien au début de la Passion, à l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, on voit très bien un ange venir réconforter le Sacré-Cœur. On voit également des anges venir servir notre Seigneur Jésus-Christ après son temps au désert. Donc le Créateur n'a pas eu besoin du secours de sa créature, mais s'étant fait homme, de même qu'il consent pour nous à être triste, de même pour nous, il consent à être réconforté. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, justement pour bien nous apprendre à ne pas nous décourager, a accepté d'être en désolation. Notre Seigneur Jésus-Christ a même accepté d'être tenté par le démon. Notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est incroyable, a même accepté d'être touché par le démon. Mais bien sûr, sans péché de sa part. Il a été touché par le démon, parce que le démon, au moment des tentations de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile du premier dimanche de Carême. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est pris physiquement par le démon, et conduit, porté au sommet du temple, porté au sommet de la montagne. Et donc, il a accepté d'être touché par le démon. Notre Seigneur Jésus-Christ a eu la tristesse de la désolation. Le premier signe d'une désolation humaine, c'est la tristesse. Et on le voit très bien dans le texte qui relate l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ est triste à en mourir. Mon âme, dit-il, est triste à en mourir. Et donc, comme il consent à être triste, il a donc consenti à être réconforté par l'ange. Encore une question très, très métaphysique, très, 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 très philosophique. La question numéro 13, la puissance de l'âme du Christ. Donc ça reprend, en fin de compte, c'est toujours les mêmes conclusions qui viennent du fait que sa nature humaine est parfaite est à la fois séparé de la nature divine, notre Seigneur Jésus-Christ est homme vraiment et Dieu vraiment, mais en même temps, il est homme et Dieu, tout en ayant une séparation entre ces deux natures sont quand même unies dans la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, elle, est unique. On peut dire qu'il y a deux natures en notre Seigneur Jésus-Christ, mais on ne pourrait pas dire, bien sûr, qu'il y a deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci serait impossible, ce serait l'hérésie pure et simple. Donc, à l'article 1 de la question 13, notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Thomas, se pose la question de savoir si l'âme du Christ a possédé la toute-puissance de façon absolue. Et donc, il répond, attention, l'âme du Christ étant une créature ne peut posséder la toute-puissance. La toute-puissance regarde Dieu, pas l'homme. Donc, pourquoi ? Parce que la toute-puissance est une conséquence de la nature divine. Donc Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, exactement, est tout-puissant en tant que Dieu, mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas tout-puissant en tant qu'homme. Donc on ne peut pas dire que l'âme du Christ soit toute-puissante. Donc il est, puisque l'âme du Christ, dit-il, est une partie de la nature humaine, il lui est donc impossible de posséder la toute-puissance. Ensuite, il va approfondir le sujet en sachant que, si vous voulez, c'est très beau chez Saint Thomas, on sent qu'il tourne autour du sujet, il tourne autour constamment, un peu comme un tourbillon, et il se rapproche de plus en plus de la colonne vertébrale même du sujet. Au début, il touche aux choses par l'extérieur, sur le sujet qu'il étudie, et puis après, il va rentrer dans le sujet pour s'approfondir de plus en plus. Voilà ce qu'il dit. Puisque l'âme du Christ est d'une nature inférieure à la nature divine, les similitudes des choses ne sont pas reçues par elles avec la perfection et la puissance qu'elles ont de la nature divine. De là vient que la science de l'âme du Christ est inférieure à la science divine, et on a vu aussi, est inférieure, cette connaissance qui vient de l'intelligence humaine du Christ est aussi inférieure à la science des anges. Soit en ce qui concerne le mode de nous connaître, puisque Dieu connaît d'une manière plus parfaite que l'âme du Christ, soit en ce qui concerne le nombre des choses sues, puisque l'âme du Christ ne connaît pas toutes les choses que Dieu peut faire et qui sont l'objet de sa science de simple intelligence. Néanmoins, elle connaît tout le présent, le passé et le futur que Dieu connaît par sa science de vision. Article 2 de la question 13, l'âme du Christ a-t-elle possédé la toute-puissance pour transformer les créatures? Donc, la réponse est toujours la même. Vous pourriez répondre par vous-même, sans même que je vous le dise. Dieu seul possède la toute-puissance. Dieu seul est tout-puissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, Dieu seul est tout-puissant, et Dieu seul possède la toute-puissance pour changer les créatures, et cela ne convient donc pas à l'âme du Christ, qui, elle, est humaine. Et donc, il n'a pas la toute-puissance. L'âme du Christ ne possède pas la toute-puissance en ce qui concerne les changements à produire dans les créatures, par exemple. Vous voyez que Saint Thomas a une façon d'enseigner très belle, c'est qu'il répète les choses pour être sûr que les gens, en quelque sorte, à force d'être entourés dans un tourbillon de théologie, finissent par absorber cette théologie, un peu par osmose. Donc, il y a une petite note intéressante en réponse à la troisième objection, la question 13 d'article 2. Il dit que la grâce des miracles permet à l'âme d'un saint de les produire, non par sa propre puissance, mais par la puissance divine. Donc, lorsqu'un homme fait un miracle, par exemple, il le fait par la puissance divine et pas par sa propre puissance. Donc, il enfonce le clou en disant même que son âme, l'âme du Christ, ne fut pas toute puissance sur son propre corps. Alors, il y a dans la question 13, article 3, une très belle question. L'âme du Christ a-t-elle possédé la toute-puissance relativement à son propre corps? Alors, j'ai déjà répondu à cette objection. Que l'âme du Christ ne fut pas toute-puissance sur son propre corps. Mais ensuite, il y a une belle phrase. Il dit qu'il y a dans l'homme trois états. L'état d'innocence, l'état de culpabilité et l'état de gloire. L'état de gloire, c'est au ciel. L'état de culpabilité, ici-bas, sur la terre. Nous sommes tous coupables du péché d'Adam et Ève. Et l'état d'innocence. Donc, il faut voir un petit peu les trois choses. Notre Seigneur Jésus-Christ explique Saint Thomas, va garder l'état d'un homme en toute chose, sauf le péché. Article 4, l'âme de Christ a-t-elle possédé la toute-puissance pour l'exécution de sa propre volonté? Donc, saint Augustin écrit, c'est une citation qu'utilise saint Thomas d'Aquin, « Il est impossible que la volonté du Seigneur, ne s'accomplisse pas. Il ne peut pas vouloir ce qu'il sait ne devoir pas se réaliser. » Alors, l'âme du Christ ne pouvait pas accomplir de telles œuvres par sa propre puissance, mais seulement en tant qu'instrument de la divinité, en tant qu'homme, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire de... En tant qu'homme, il y a une capacité physique, une capacité intellectuelle, une capacité de volonté qui est limitée par sa nature humaine. Mais il est parfaitement instrument de la divinité, donc la divinité peut utiliser l'homme comme... dans la personne du Christ, comme un instrument. Donc la puissance et l'opération de l'âme du Christ se trouvaient en dépendance de Dieu. Question 14. Alors, c'est une question plus facile. On retrouve quand même de temps en temps, même dans le traité sur le Verbe incarné, qui est certainement un des traités, avec le traité de la Sainte Trinité, un des traités les plus élevés en théologie. Donc la question 14, des déficiences du corps assumées par le Fils de Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ étant parfaitement homme, l'homme a des déficiences en tant qu'homme. Par exemple, le corps humain doit être nourri, doit se pouvoir se reposer, sinon il s'étiole. Le corps humain aussi peut tomber malade, le corps humain peut, s'il n'est pas nourri, va mourir. Donc la première question de l'article, donc l'article 1 de la question 14 de la tertia part se pose cette question, le Fils de Dieu a-t-il dû assumer avec la nature humaine les déficiences du corps? C'est une question sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu parce qu'il y a des choses magnifiques dans cette question. Donc je répète la question que se pose saint Thomas d'Aquin, le Fils de Dieu a-t-il assumé avec la nature humaine les déficiences corporelles? Donc voilà ce qu'il répond. Parce qu'il a souffert et a été lui-même éprouvé, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment souffert, il est né pour souffrir, il a donc souffert la passion. Il convenait donc que le Fils de Dieu assumât une chair soumise aux infirmités humaines afin de pouvoir en souffrir et être éprouvé, ainsi nous porter secours. Ça c'est très important parce que, encore une fois, j'en ai déjà parlé souvent, certaines sectes, je pense que les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion n'étaient qu'apparentes, qu'en fait il ne souffrait pas vraiment. Mais notre Seigneur Jésus-Christ était véritablement homme, donc en tant qu'homme il souffrait, il est né pour souffrir. Donc il convenait que le corps assumé par le Fils de Dieu fût soumis aux infirmités et aux souffrances humaines, et il va donner trois motifs. Il faut bien connaître ces motifs qui sont très beaux. Le Fils de Dieu, premièrement, en assumant la chair, est venu en ce monde satisfaire pour le péché du genre humain. Or, on satisfait pour le péché d'un autre en prenant sur soi la peine due au péché de l'autre. Les saintes infirmités corporelles, comme la mort, la faim, la soif, etc., sont le châtiment du péché, lequel a été introduit dans le monde par Adam, selon l'Épître aux Romains. Chapitre 5, verset 11, je cite, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Il était donc convenable, dit saint Thomas, relativement à la fin de l'incarnation, que le Christ assuma pour nous ses pénalités de la chair, selon la parole d'Isaïe 53, 4, il a véritablement porté nos souffrances. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va véritablement souffrir pendant la passion pour pouvoir mourir sur la croix. Donc si le Fils de Dieu avait assumé la nature humaine sans ses déficiences physiques, le fait que la fatigue, par exemple, la mort, on aurait... donc pu croire qu'il n'était pas homme véritable et qu'il n'avait qu'une chair irréelle. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement souffert. Donc le Christ s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave et en se rendant semblable aux hommes. Et il a été reconnu pour homme en tout ce qui est apparu de lui. Perdre ma ligne là. Je retrouve ma ligne. Voilà, donc on reprend. Nous sommes toujours à la question 14, article 1. Ça, c'est une question sur laquelle j'insiste parce que cet article est très important et facile à comprendre. Le Fils de Dieu a donc dû, avec la nature humaine, assumer les déficiences corporelles qui sont partie essentielle de la nature humaine en tant que nature humaine est créée. Bon. Alors, donc, premièrement, en tant que Dieu, en assumant la chair, le Fils de Dieu, en tant qu'homme, en assumant la chair humaine, est venu, je répète cette phrase qui est très importante, est venu en ce monde satisfaire pour le péché du genre humain. Donc, c'est la citation de saint Paul qu'on a déjà donnée, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc, il a véritablement, c'est le texte d'Isaïe, porté nos souffrances. Donc, ces souffrances ne sont pas apparentes, elles sont réelles. Si le Fils de Dieu avait assumé la nature humaine sans ses déficiences, on aurait donc pu croire qu'il n'était pas homme véritable, qu'il n'avait qu'une chair irréelle, et à ce moment-là, on tombe dans le docétisme, dans le manichéisme. Les docétistes, je vous l'ai déjà dit, pensaient que les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion n'étaient qu'artificielles, n'étaient pas réelles. Le manichéisme, les manichéens, les cathares, les albigeois disaient un petit peu la même chose. Donc saint Thomas va citer saint Paul aux Philippiens, il s'est anéanti, le Christ s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave et en se rendant semblable aux hommes. Il a été reconnu pour homme en tout ce qui a paru de lui, c'est pourquoi également Thomas fut ramené à la foi par la vue de ses plaies. Saint Thomas apôtre. Donc le Christ nous donne l'exemple de la patience également en supportant courageusement les souffrances et les infirmités humaines. Tout ça nous montre bien qu'il est véritablement homme. C'est pour ça que son agonie au jardin des Oliviers est véritable. Et tous les pères de l'Église, je vous l'ai déjà souvent dit, les pères de l'Église pensent avec raison que notre Seigneur Jésus-Christ a plus souffert dans son humanité, a plus souffert pendant l'agonie au jardin des Oliviers que pendant le portage de la croix et la crucifixion elle-même. Alors que pendant l'agonie au Jordan des Oliviers, notre Seigneur n'a pas été touché physiquement par ses ennemis. Donc il a fallu que l'âme du Christ soit parfaite quant aux habitudes de science et de vertu pour être capable de satisfaire. Il a fallu donc que son corps soit sujet aux infirmités pour que la satisfaction ne soit pas privée de matière. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a supporté les infirmités de la chair pour satisfaire pour nos péchés. La volonté divine permettait donc à la chair de souffrir, de pâtir et d'agir conformément à ses propriétés naturelles. Ensuite, il va expliquer un peu plus, une belle phrase, toujours dans l'article 1 de la question numéro 14. Donc, la faiblesse assumée par le Christ, loin d'être un obstacle à la fin de l'incarnation, l'a extrêmement favorisée. Bien qu'elle ait voilé sa divinité, il manifestait néanmoins son humanité, qui est la voie par laquelle nous parvenons à la divinité. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Notre Seigneur Jésus-Christ, par les souffrances de la passion, a manifesté l'extraordinaire charité qu'il avait à notre égard. Donc, article 2, le Christ a-t-il assumé la nécessité de subir les déficiences du corps? Donc, on a déjà vu un petit peu ça, je reviens rapidement pour être sûr que c'est bien compris. Donc la condition de notre chair de péché, c'est de se trouver dans la nécessité de mourir et de subir les autres genres de souffrance. Donc il fallait donc également admettre une telle nécessité dans la chair du Christ. Alors, voilà ce que précise saint Thomas d'Aquin. En tant qu'une telle nécessité contrarie la volonté, il est évident que le Christ ne subissait pas ses déficiences par nécessité, ni à l'égard de la volonté divine, ni à l'égard de la volonté humaine, considérée absolument en tant qu'elle suit la délibération de la raison, mais seulement par rapport au mouvement naturel de sa volonté, en tant que par nature, elle fuit la mort et tout le dommage corporel. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, a subi la passion, les affres de la passion, par obéissance à son Père. Le Christ s'est offert parce qu'il l'a voulu, par sa volonté divine et par sa volonté humaine délibérée. Mais la mort était contraire au mouvement naturel d'avalité, la volonté humaine. Donc, en tant qu'homme, Dieu avait donc une horreur naturelle de la mort. Donc, saint Thomas continue de creuser avec l'article 4, 3, pardon, la question 14. Le Christ a-t-il contracté les différences et déficiences, pardon, du corps? Donc, la cause de la mort et des déficiences de la nature humaine, on l'a déjà vu, c'est le péché, car par le péché, la mort est entrée dans le monde. Donc, ces déficiences sont contractées à proprement parler par ceux-là seulement qui les encourent du fait de la dette du péché. Mais le Christ n'a pas connu ses déficiences à cause de la dette du péché. Donc il n'aurait pas dû souffrir, puisqu'il est innocent. Il a voulu souffrir, bien qu'il n'ait jamais péché, pour justement nous faire comprendre à quel point notre Seigneur Jésus-Christ a de l'amour pour nous. Donc il a pris la nature humaine sans péché, avec cette pureté où elle se trouvait dans l'état d'innocence. Et de la même manière, il aurait pu assumer une nature humaine sans ses déficiences. Il est donc évident que le Christ n'a pas contracté les déficiences corporelles comme s'il les avait reçues en vertu d'une dette de péché, mais qu'il les a assumées de sa propre volonté. Tout Seigneur Jésus-Christ a voulu souffrir, mais n'avait pas besoin de souffrir parce que lui, il n'avait jamais commis le moindre péché. Il aurait pu assumer une nature exempte de peine, mais pour accomplir l'œuvre de notre rédemption, il a voulu prendre sur lui la peine. Il n'a donc pas contracté les déficiences corporelles, mais il les a assumées volontairement. Et enfin, en conclusion de cet article 3, la question 14, le Christ a été rendu semblable aux autres hommes par ses déficiences quant à leur qualité et non quant à leur cause. C'est pour ça qu'il ne les a pas contractés comme les autres hommes. C'est-à-dire, Dieu a accepté de souffrir, mais non pas parce qu'il était pécheur. Dieu a accepté de souffrir pour les pécheurs parce que les pécheurs ne voulaient pas reconnaître leur situation. Alors, saint Thomas continue en se posant la question de savoir si le Christ avait assumé non seulement quelques déficiences corporelles, mais toutes les déficiences corporelles. Donc, la réponse est négative. Le Christ n'a pas pu assumer toutes les infirmités humaines. Pourquoi ? Parce que le Christ devait assumer les déficiences qui viennent du péché commun à toute la nature et qui pourtant ne s'opposent pas à la perfection de la science et de la grâce. Donc, il y a parmi elles, par exemple, des conséquences qui s'opposent à la perfection de la science et de la grâce. L'ignorance, l'inclination au mal, la difficulté à faire le bien. Il est évident qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il était Dieu, il n'y avait aucune inclination au mal et aucune difficulté à faire le bien. Quand il a été tenté par le démon 3 fois, c'est pour nous apprendre à résister à la tentation. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a même pas eu la tentation, le désir, même très, 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 très petit, d'accepter la tentation qu'il assaillait, tentation qui venait du démon. Donc notre Seigneur, évidemment, est parfaitement homme et a tout de l'homme, sauf le péché. Donc il n'a pas d'inclination au mal, ni de difficulté à faire le bien. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ, saint Thomas va expliquer qu'il y a certaines déficiences qui ne sont pas encourues par toute la nature humaine à cause du péché de notre premier Père. Se trouvent chez certains individus et ont des causes spéciales. Par exemple, la lèpre, l'épilepsie. Tantôt, elles sont produites par la faute de l'homme, comme une vie déréglée. Tantôt, elles proviennent d'une malformation naturelle. Or, ni l'une ni l'autre de ces causes ne s'applique au Christ, car sa chair a été conçue du Saint-Esprit, dont la sagesse et la puissance sont infinies, et qui ne peut errer ni faillir. Le Christ lui-même n'a mis donc aucun désordre dans la conduite de sa vie. Donc, non seulement il n'y a pas de désordre dans la conduite de sa vie, mais il a en lui aucune conséquence du désordre des autres hommes. Mais il y a certaines déficiences qui se trouvent communément chez tous les hommes, du fait du péché de notre premier père, la mort, la faim, la soif. Et toutes ces déficiences, le Christ les a prises à son compte. D'accord ? Ensuite, il précise... Il n'assuma nos déficiences corporelles que par miséricorde afin de satisfaire pour notre péché, non parce qu'elles lui convenaient par elles-mêmes. Aussi ne devait-il pas les assumer toutes, mais seulement celles qui lui permettaient de satisfaire pour le péché de toute la nature humaine. Alors, on a encore un petit peu... On est dans les horaires, on a encore un petit peu de temps pour... Voir la question numéro 15, donc sur les déficiences de l'âme assurées par le Christ. On a vu les déficiences corporelles, maintenant voyons les déficiences spirituelles. Alors attention, encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu le péché. Il le dit lui-même en Saint Jean. Qui de vous me convaincra de péché? Donc le Christ, dit Saint Thomas d'Aquin, a pris nos déficiences afin de satisfaire pour nous, pour manifester la vérité de sa nature humaine et enfin pour nous donner l'exemple des vertus. Mais le péché ne servant à rien pour la satisfaction, empêchant son efficacité, il est absolument évident que notre Seigneur Jésus-Christ a pris toute notre nature humaine, sauf le péché. Donc le péché n'est pas une preuve de la vérité de la nature humaine, car il ne fait pas partie de cette nature qui a Dieu pour cause. Il est plutôt introduit contre la nature par une semence du diable. C'est le diable qui a fait entrer le péché dans la nature humaine et pas Dieu lui-même. Donc le Christ ne pouvait pas... Je reprends cette phrase, pas dire de bêtises. Donc le péché a été introduit contre la nature humaine, par le diable lui-même. Donc, le Christ, c'est la conclusion de saint Thomas, le Christ, dit-il, ne se trouvait pas en Adam par voie d'origine séminale, c'est-à-dire il n'a pas été conçu avec une semence physique d'un père véritable, mais seulement par voie d'origine matérielle. Ben pourquoi le Christ n'a pas reçu sa nature d'Adam comme d'un principe actif, mais seulement d'une matière matérielle, d'une manière matérielle, et le principe actif en fut le Saint-Esprit. Dieu a été conçu du Saint-Esprit et pas d'une semence humaine. Donc, le Christ, Dieu a fait le Christ péché, non en ce sens qu'il a chez lui du péché, bien sûr que non, mais en ce sens qu'il a fait de lui une victime pour le péché. Bien qu'il n'eût jamais péché, notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de porter sur nous, sur lui, les conséquences du péché. Donc le Christ a livré le Christ en victime pour les péchés de tous les hommes. Donc le Christ, c'est la conclusion de l'article 1 de la question 15, le Christ a donné un plus grand exemple aux pénitents en acceptant de subir la peine, non pour ses propres fautes, mais pour les péchés des autres. Notre Seigneur Jésus-Christ est innocent, nous sommes coupables, nous ne voulions pas faire pénitence pour nos péchés, donc qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Il va prendre le fait que nous refusions de nous convertir sur lui, pour nous obliger littéralement à la conversion. Pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va subir pour lui, alors qu'il n'est pas coupable, les conséquences des péchés des hommes. Alors, article 2, ça c'est relativement facile. Article 2, la question 15, y avait-il chez le Christ le foyer du péché? Fome explicati. Donc, il est évident que puisque le Christ n'avait pas le péché originel, il n'avait pas en lui de foyer de péché. Plus la vertu est parfaite dans un individu, plus elle affaiblit le foyer du péché. Mais puisque le Christ possédait la vertu au suprême degré, puisqu'il n'avait pas le péché originel, il s'ensuit que le foyer du péché n'existait pas chez lui. La vertu parfaite qui se conforme à la droite raison n'exclut pas la passibilité du corps, tandis qu'elle exclut le foyer du péché qui se définit par la résistance de l'appétit sensible à la raison, une attraction vers les trois concupiscences. Notre Seigneur Jésus-Christ étant parfait, n'avait pas de péché, donc n'avait pas d'attraction vers la concupiscence des yeux, de la chair ou l'orgueil. Donc la chair du Christ, par un désir de l'appétit sensible, comme il était vraiment homme, convoitait naturellement le manger, le boire, le sommeil et les autres biens de ce genre, qui sont objets de désirs raisonnables. Il ne suit donc pas de là que le Christ avait en lui le foyer du péché et les trois concupiscences, qui supposent un désir déraisonnable des biens sensibles. Alors ensuite, article 3 de la question 15, est-ce qu'il y a eu de l'ignorance dans le Christ? Donc on l'a déjà vu. Par rapport à sa science acquise et expérimentale, oui. Mais en tant qu'uni à la nature divine, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas d'ignorance. De même que la plénitude de grâce et de vertu excluait en lui le foyer du péché, ainsi la plénitude de science, sous la science acquise, la science affuse, la plénitude de science excluait l'ignorance à laquelle elle s'oppose. L'incarnation est un sujet magnifique, mais c'est en même temps un sujet qui n'est pas toujours très facile à traiter. D'où mes explications qui ne sont pas toujours merveilleuses, parce que justement, faire très attention à ce qu'on dit pour ne pas dire l'hérésie. Donc, l'âme du Christ était-elle passible? Est-ce qu'il pouvait y avoir une souffrance dans l'âme du Christ, hein? Patere en latin, ça veut dire souffrir. Donc l'âme du Christ était passible. On voit très bien dans le début de la Passion, pendant laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va dire « Mon âme est triste à en mourir. Hein? » Donc, saint Thomas a conclu cet article en disant que les passions nous portent la plupart du temps vers les biens illicites, s'ils ne pouvaient se produire dans le Christ, puisqu'il n'y avait pas le péché originel dans le Christ. Nos passions devancent souvent le jugement de la raison, tandis que dans le Christ, tout le mouvement de l'appétit sensible laissait sous le contrôle de la raison. Il y avait une parfaite soumission de la volonté à l'intelligence dans le Christ. Il maîtrisait même les mouvements de nature charnelle de telle sorte qu'il demeurait dans l'appétit sensible sans entraver d'aucune manière le droit usage de la raison. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que c'est quand même des questions qui demandent une certaine attention, plus d'attention que pour d'autres parties plus faciles de la somme, donc je m'excuse. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à suivre, mais je ne peux pas trop non plus simplifier saint Thomas dans les passages qui sont un petit peu difficiles. Encore une fois, ça demande un travail personnel, donc n'hésitez pas. Je vous conseille beaucoup ça à ceux qui ont un petit peu de temps. Vous écoutez une première fois l'article. Vous pouvez vous aider du polycopier. Je vais vous donner la page du polycopier. Donc, c'est à partir de la page 141 sur polycopier qui est sur le site. Éventuellement, vous prenez quelques notes et ensuite, si vous avez le temps, vous réécoutez le cours que je viens de donner pour arriver à mieux le comprendre. Donc, nous arrêtons à la question 15, article 5 de la Tertia Pars. Et nous reprendrons, si Dieu veut, la semaine prochaine, ce cours. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.